café les rouges et si la gamasse.
Et tout de suite,
la pique avec lève calou.
C'est qui ou quoi sur Radio Dio. BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, pour cette 27e émission de qui ou quoi, on ne change pas une équipe qui gagne, à savoir... que ce soir, on vous parle de deux livres. On vous chronique ça avec notre talent légendaire, en long, en large et en travers. Deux livres différents, tirés de nos lectures, de nos coups de cœur ou pas, liés à l'actualité littéraire ou pas. Ce soir, donc, ce sera un roman noir, avec l'avant-dernier livre de Greg Iles qui s'appelle Brasier Noir. Et puis Vincent viendra nous parler de son amour pour le tome 4 de l'Arabe du Futur de Riyad Satouf. Donc roman noir et roman graphique, tout ça, c'est tout de suite dans Qui ou Quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça est apparu sur mon radar à livre le roman de Greg Iles, Brasier Noir. Au final, il faut que vous sachiez que moi, je lis peu de romans. En gros, je lis surtout des BD et des livres sur la musique parce que je n'ai jamais vraiment réussi à me remettre de mes lectures adolescentes des un rock et autres rock and folk. Toujours est-il que je m'y connais très peu en roman noir. J'ai bien lu Le Faucon Maltais, mais je n'ai jamais lu de Patrick Manchette. J'ai jamais lu Millennium, mais j'ai lu Pimp, dont je vous ai parlé dans une récente émission, etc. etc. Donc, ma seule source d'information, en fait, pour les polars... c'est les amis qui pourraient éventuellement m'en conseiller, et puis c'est l'émission Mauvais Genre sur France Culture, nos éminents concurrents de Paris. Et c'est donc dans Mauvais Genre qu'ils en ont parlé de Brasier Noir. Il se trouve que j'ai eu à le conseiller à plusieurs personnes sans l'avoir lu, rapport à mon travail, mais je ne détaillerai pas plus. Allez chercher dans les podcasts qui sont tous en ligne sur le site de Radio Dio, et vous saurez plus sur mon travail de tous les jours. L'enquête est ouverte. Bref, tout le monde à qui je l'ai conseillé et qui l'a lu m'en a fait un retour positif. Et donc, avant Noël, je me suis lancé et je vous en parle aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais vous décrire l'objet. Brasier Noir, c'est ce qu'on appelle un gros pavé. 1050 pages au bas mot. Et tout ça paru dans la collection Acte Noir chez Acte Sud. C'est cette collection à la couverture noire avec une illustration en couverture dans un médaillon. Pour ceux à qui ça parle, c'est la collection de Millennium. Et ben, toujours à propos de parler, ben, ça parle de quoi ce Brasier Noir ? Je vais essayer de vous pitcher le truc. Le roman commence par un prologue. C'est le personnage principal qui évoque le fait qu'il y a toujours mis son père sur un piédestal, mais qu'en fait, il y a toujours quelque chose de caché. Et ce quelque chose à propos de son père, Penn Cage, le personnage principal donc du roman, aurait préféré ne pas le savoir. Fin du prologue. Tout commence par trois meurtres dans l'état du Mississippi au tout début de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Et... Passé ces trois premiers meurtres, 45 ans plus tard, une nouvelle mort va faire rejaillir le passé. Le héros, c'est donc Penn Cage, que je viens d'évoquer, c'est le maire de la ville de Natchez, Mississippi, là où se passe l'action, la plupart de l'action. Et il va essayer de protéger et d'innocenter son père qui est éclaboussé par tous ces morts. C'est toujours difficile de parler d'un livre sans spoiler, d'autant que dans celui-ci, chaque chapitre est crucial et recèle son lot de rebondissements et d'informations. Donc difficile de ne pas trop en dire. En tout cas, pour ce qui est du pitch, moi je m'arrête là. Une petite biographie de Greg Iles, l'auteur. Donc Greg Iles est un auteur américain qui est loin d'en être à son premier essai, vu que Brasé Noir en fait est son 15e livre et son 6e traduit en français. Juste personnellement, je ne le connaissais pas. Il a grandi à Natchez, là où se déroule le livre, ce qui donne un écho particulièrement intéressant au livre justement, une fois qu'on le sait. D'un côté, plus anecdotique, son autre passion, apparemment, c'est la musique. Et il fait partie d'une espèce de super groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle les Rock Bottom Remainders, qui regroupe des écrivains comme Stephen King ou Matt Groening, le créateur des Simpsons, et qui ne joue que pour des événements de charité. Bref, ça n'a que peu d'intérêt, mais bon, moi j'ai trouvé ça rigolo. Et résultat, en préparant l'émission, je me suis fadé des vidéos de Stephen King qui chante des blues pas terribles sur scène. Bref, revenons à nos moutons. Ce Brasier noir de Greg Iles, il est loin d'être anecdotique. En fait, si je vous en parle ce soir, c'est parce que je le trouve tout simplement mortel. Passionnant, haletant, etc. Je vais vous donner quelques indices qui prouvent ce que je viens de vous dire. D'une, comme j'ai dit, c'est un putain de pavé, et pour autant, à aucun moment, on ne s'ennuie ou on se dit qu'on va l'arrêter. De deux, et c'est là le fort qui fait qu'on ne peut s'empêcher de le lire, c'est que le récit, il est extrêmement bien ficelé. Sa construction est carrément de l'ordre du travail d'orfèvre. Comme tous les livres, il est découpé en chapitres, et chaque chapitre s'organise autour d'un personnage, un peu à la manière d'un Game of Thrones de George Martin, pour ceux qui l'ont lu, mais de manière plus subtile. En fait, ce personnage nous donne à chaque fois un tout petit élément, jamais de manière frontale, et un nouvel élément du récit. Et l'histoire se construit un peu comme un mode d'emploi de Lego, vraiment comme ça, une pièce à la fois. C'est extrêmement bien fait. En plus, bon, chaque personnage a son style de narration, et par exemple, les chapitres du personnage principal sont à la première personne. C'est tellement bien fichu qu'on assimile immédiatement tous les personnages, toute la chronologie. En fait, en lisant le livre, on a l'impression d'être intelligent, de tout retenir pour une fois, alors qu'en général, moi personnellement, on me dit un truc et puis une heure après, j'ai déjà oublié. Bref, le récit avance comme ça, on a toujours un coup d'avance sur le personnage principal, ce qui augmente notre empathie pour lui, vu qu'on a tellement envie de l'aider. Ensuite, moi, un truc qui me plaît particulièrement dans ce bouquin, c'est son contexte. C'est cette Amérique du Mississippi et la lutte pour les droits civiques. Perso, ce contexte historique, c'est la toile de fond de plusieurs films qui ont marqué mon enfance, mon imaginaire, mon intérêt pour les luttes contre le racisme, les trucs comme ça. De Mississippi Burning, qui parle d'agents du FBI qui infiltrent le Ku Klux Klan, à La Couleur Pourpre, qui est un des films qui m'a fait le plus pleurer enfant. Ce livre, en fait, a trouvé un écho dans tout ça et il me permet d'évoquer ici une série de documentaires qui m'a marqué, qui s'appelle Eyes on the Prize, qui traite de la même chose. Une série que j'avais découverte au début des années 2000 via un internet des débuts et la mobilisation de pas mal de réseaux militants. Donc, je vais faire une petite aparté sur Eyes on the Prize parce que je trouve ça trop important. Eyes on the Prize, c'est une série de documentaires américains qui documentent la lutte pour les droits civiques. C'est un peu l'équivalent de Shoah, mais sur les droits civiques et en mode image d'archive. Parce qu'en fait, à cette époque, tout a été filmé et c'est vraiment hallucinant à voir. Là où, si on continue la comparaison entre Shoah et celui-là, Shoah, c'est des interviews de personnes qui racontent. Là, c'est vraiment les images à l'époque. Même si, les docs font des allers-retours entre images d'archives et interviews récentes. Ces films, en fait, qui sont vraiment essentiels, n'étaient plus disponibles au début des années 2000 à cause des droits qui concernaient toutes ces images d'archives. Une campagne de diffusion interdite, alors, c'était au milieu des années 2000, s'était montée pour qu'on découvre ce monument et que les ayants droit se calment un peu. Et c'était à cette occasion que j'avais découvert tout ça. Et en lisant Brasier Noir, en fait, je me suis replongé dans les quelques épisodes d'Eyes on the Prize que j'ai. Et j'ai découvert, d'ailleurs, que les docs sont aujourd'hui disponibles en DVD aux States et qu'on peut même les voir sur YouTube. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est un peu exagéré ce que je vais dire, mais en fait, Eyes on the Prize, c'est le pendant réel à Brasier Noir. Toute proportion gardée. Hein. Eyes on the Prize est essentiel, Brasier Noir reste un roman. Un roman extrêmement réussi, mais c'est un roman. Mais Eyes on the Prize, c'est la vraie toile de fond du roman. Ces documentaires sont essentiels, je me répète, mais il faut les voir. Je vais revenir à Brasier Noir de Greg Hiles. Avant de digresser vers Eyes on the Prize, je vous évoquais la qualité de la construction du récit. Et bon, c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait, et de toute façon, tout est parfait, ou presque, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Les personnages sont extrêmement bien campés, la psychologie, leur caractérisation sont vraiment parfaites. L'intrigue, elle est super, elle est peut-être un peu classique par certains aspects, un meurtre, un notable dans la ville, des méchants, etc. C'est violent, bah c'est un roman noir quoi. Mais c'est vraiment un très 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 bon roman noir. Vraiment, bon, je me répète, mais j'en peux plus. J'adore, c'est passionnant, c'est un gros pavé. Ce côté gros pavé, d'ailleurs, ça peut sembler être un frein, enfin, pas pour un lecteur de fantasy qui ne peuvent pas lire des livres de moins de 2000 pages, mais je vous assure que concrètement, c'en est pas un de frein. Et puis en plus, je vous avoue maintenant, c'est le premier livre d'une trilogie, donc en fait, lancez-vous dedans, ça ne sert à rien d'avoir peur. Le deuxième tome vient de sortir, il s'appelle L'Arbre des Morts, et il fait aussi plus de 1000 pages. Mais s'il vous plaît... Lisez-le.
Well, if you need it, God got it. God got everything that you need. Oh, if you need it, God got it. God got everything that you need. If you need it, God got it.
Charlie Jackson avec le morceau God's Got It. Et on est de retour sur Radio Duo dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Le deuxième livre dont on va vous parler ce soir, c'est pas moi qui vais vous en parler, il y a un temps pour tout, et ce temps maintenant, c'est celui de Vincent. Vincent, le Christophe André de la chronique littéraire, l'homme qui conjugue relaxation et critique littéraire, la fipette de Radio Duo qui va nous parler BD ce soir et pas n'importe laquelle, À toi, Vincent.
Amis auditeurs, auditrices, bonsoir. C'est comme d'habitude un plaisir et un grand honneur pour moi de faire une chronique sur ton émission, Axel. Alors, sache que l'on m'a gâté à Noël. Axel, Noël, c'est dingue. Et Axel, ça rime avec Noël. Ah, bon, d'accord. Alors, figure-toi que j'ai reçu pour Noël le 4e tome de L'Arabe du Futur, de Riyad Satouf, édité par Alary Édition. J'en tremble encore d'excitation. Ce 4e opus est plus gros que les 3 autres. En moyenne, les 3 premiers tomes, à la couverture souple, cartonnée, faisaient 150 pages. Là, nous avons 288 pages. L'auteur a prévu encore 2 autres tomes. Au total, si on additionne le tout, on aura plus de 1000 pages. C'est fou, ça, c'est comme le roman de Greg Alves. Je ne sais pas si les grands esprits se rencontrent. Dans lesquels, donc, alors l'auteur nous raconte quoi dans ces 1000 pages ? Eh bien, ses souvenirs d'enfance. Une enfance se situant entre la France, la Libye et la Syrie. Si jamais vous vous perdez, Riyad a prévu un code couleur très graphique. Ce qui donne du bleu pour la France, rose pour la Syrie et le Liban, jaune pour la Libye, vert pour Guernesey, rouge pour la fiction et l'imaginaire. D'après Riyad Satouf, ce code couleur s'est imposé assez facilement. Ce sont les couleurs de l'émotion. Ajoutez à cela un style graphique simple, très influencé par la ligne claire d'Hergé. Certains esprits chagrins trouveront que le style de Riyad Satouf est un peu cucu, voire gnangnan, voire déjà vu. Eh ben moi, j'adore. Dans les albums dessinés par Riyad Satouf, vous pourriez aussi être rebuté par le découpage des cases qui peut s'avérer quelque peu monotone. Non, vous ne verrez pas de superposition de cases ou d'effet de vitesse hyperbolique. Effet que l'on retrouve à foison dans les mangas et les comics. Tout est dans la subtilité et la justesse des expressions qui rendent les personnages de Monsieur Satouf incroyablement attachants. J'avais déjà été impressionné quand j'avais découvert Retour au collège, édité chez Hachette en 2005. Allez savoir pourquoi. Quand je parle de cet album BD culte pour moi à quelqu'un, j'ai tendance à confondre le titre avec Les années collège. Une série télé que je regardais quand j'étais ado. À part le mot collège, il n'y a pas grand-chose en commun avec la BD. Je me permets juste très 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 vite de vous raconter le principe de Retour au collège. En 2004, Riyad Satouf a passé 15 jours en immersion complète dans un des meilleurs collèges de France. Quand on dit immersion, c'est qu'il était dans la classe avec de jeunes collégiens et collégiennes. Pour reprendre les mots de l'éditeur, Retour au collège est une plongée aussi drôle que réaliste dans l'intimité des adolescents. Cette BD est à offrir absolument à une personne dépressive ayant la nostalgie de ses années collège. Ça lui remontera le moral. J'invite à ce propos nos auditeurs et auditrices à voir Les Beaux Gosses, le premier film réalisé en 2009 par Riyad Satouf, qui nous a sorti en 2014 une autre perle avec Jackie au Royaume des Filles. Voilà, une petite aparté sur ce que j'ai vu et lu de M. Riyad Satouf avant d'avoir entre les mains le 4e tome de L'Arabe du Futur. L'Arabe du futur, qu'est-ce donc ? Riyad, comme je le disais, nous raconte son enfance. Née en 1978, de Clémentine, une maman bretonne, et Abdel, un papa syrien, Riyad est ballotté entre la France et le Moyen-Orient. Ce multiculturalisme ne va pas sans occasionner au jeune Riyad nombre de problèmes. Surtout avec le père qui voit dans les dictateurs comme Kadhafi et Hafez el-Assad des visionnaires capables de tirer le monde arabe de l'obscurantisme. C'est énorme. Surtout que Abou Riyad, traduisez le père de Riyad, est docteur à l'université. Dans le tome 4, Riyad vit une adolescence compliquée. Ses parents ne s'entendent plus. Son père part seul travailler en Arabie Saoudite et verse de plus en plus dans la religion. Sa mère, ne supportant pas ce virage, rentre en Bretagne. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que le final laisse imaginer une suite hallucinante. J'attends avec impatience le tome 5. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette saga autobiographique, c'est le luxe de détails. C'est fascinant de voir avec quelle précision Riyad se souvient de son enfance. Et par ce biais, il nous décrit le quotidien des Libyens et des Syriens sous la dictature. Détail intéressant, Riyad se représente comme un enfant ravissant à la belle chevelure blonde. Si ravissant qu'on a bien envie de lui mettre quelques baffes. Des baffes. Il va en avoir, surtout pendant sa scolarité en Syrie, où les professeurs ont des méthodes pédagogiques pour le moins brutales. En plus de ça, dans le magnifique village de Ter Mahale, proche de Homs, à moins de 200 km au nord de Damas, certains de ses camarades, d'une ignorance et d'une bêtise crasse, pensent qu'il est juif. Les juifs qui sont, selon la propagande syrienne, le mal qu'il faut combattre. Ils ont aussi une manière très particulière de jouer avec les animaux. L'Arabe du futur est une œuvre grandiose, car à travers les yeux d'un enfant, vous découvrez la misère, la bêtise et la corruption endémique de régimes autoritaires. Riyad et sans concession. Il ne porte pas de jugement, il met simplement un coup de projecteur sur des comportements délirants et des dysfonctionnements d'une absurdité fabuleuse. Ce qui est formidable, car c'est à moi, lecteur, qu'il fait confiance pour tirer les conclusions qui s'imposent. Bon, pour finir, je pense que la lecture de l'Arabe du futur est une œuvre importante si vous avez envie de comprendre quelque chose à l'actualité du monde arabe. J'espère que je vous aurai donné envie de lire du Riyad Satouf. Axel, je te laisse reprendre la parole.
Merci Vincent, mais on va tout de suite écouter un deuxième morceau.
Oh,
C'était Thério les Mouchetaques sur l'album The Hour of Two Lives et le morceau s'appelle 10-11. L'émission touche à sa fin. Je voulais juste quand même rajouter un petit quelque chose à ta chronique, Vincent. C'est que moi, par exemple, l'Arabe du futur, c'est pas du tout ma BD préférée de Riyad Sattouf. Mais bon.
Je sens que c'est Pascal Brutal, toi.
Non, c'est pas Pascal Brutal non plus. C'est les désastreuses aventures de Jérémy. Les pauvres aventures de Jérémy, un des trucs qu'il a fait au tout début, qui me font rigoler. Mais ça n'empêche que je trouve que Riyad Sattouf est un auteur très important. Et j'aime beaucoup ses films, surtout le film Jackie au Royaume des Filles, qui m'avait fait mourir de rire. Les beaux gosses, beaucoup moins. Mais c'est tout, on aurait de quoi en parler jusqu'au bout de la nuit.
C'est vrai.
Je tenais aussi à rappeler, vu que tu as parlé de bande dessinée, que rebondir un tout petit peu sur le fait qu'hier, il y a eu le Grand Prix de la ville d'Angoulême qui a été décerné à une auteure de bande dessinée qui s'appelle Rumiko Takahashi, que je n'ai jamais vraiment lu, mais en tout cas, pour les gens de nos âges, Vincent, c'est-à-dire quarantenaire éclairé.
C'était un peu...
C'est l'auteur des dessins animés de notre enfance, Ranma & Demi,
La Mue, et le
fameux Juliette, je t'aime.
À la pension d'Inno Moza.
À la piste, et spéciale dédicace à un ami qui nous est cher, Pierre de Ludovic, qui reconnaîtra pourquoi je lui fais cette dédicace. En ce moment, il y a Angoulême. Suivez Angoulême, il y a plein de bonnes BD, il y a plein de trucs intéressants qui s'y passent. On en reparlera de toute façon entre nous.
Tu te rends compte qu'ils ont récompensé, c'est la deuxième fois qu'ils récompensent une femme.
Non mais ça c'est très bien, ils rattrapent leur retard après au moins deux ou trois éditions de polémiques justement à ce niveau là et puis surtout pas avec n'importe laquelle. Rumiko Takahashi est vraiment une auteure très importante au Japon. Voilà.
Tu peux répéter encore une dernière fois, j'aime bien entendre.
Rumiko Takahashi. Voilà, je peux pas le dire en verlan, mais je m'entraînerai pour la prochaine édition. On va se quitter là-dessus. Je rappelle aussi aux éditeurs qui écoutent Radio Dio demain la 5e Diophonie, qui aura lieu au Clapier, avec pléthore de groupes qui défoncent. J'avais pas le tract sous les yeux, mais j'en profite quand même pour vous le rappeler. Donc il y aura Crayon, le featuring le K-Box Sound System, Fedayi Pacha, Vestal et Reborneo, Blurus, les Negative Runners et Red. Et les animateurs de Radio Dio, enfin une partie parce qu'ils ne seront pas tous là, feront les DJ entre les groupes. Vous pourrez les rencontrer et rencontrer tous les gens de la radio. Ça va être bien bien cool. Donc j'espère rendez-vous demain à ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent pas, on leur racontera. Ceux qui sont à Angoulême par exemple, bon, je sais pas si on a, mais on sait jamais. Donc voilà, merci Vincent pour cette belle émission.
Merci Axel.
On se retrouve dans un mois et moi, donc la semaine prochaine à la même heure sur cette antenne, ce sera Radio Gaga. Et on se retrouve, nous, dans deux semaines, et je serai tout seul cette fois. Bonne soirée, bonne nuit, et bonne écoute de Radio Dio.